Le haut commissaire invité de Radio Rythme Bleu, Jacques Billan, a fait part de ses priorités. Il a évoqué la sécurité publique, extrait à retrouver dans un instant. Les bus Taneo ont repris leur service à 11h. Ce matin, les conducteurs ont débrayé après les caillassages d'hier soir. Philippe Gomès à la barre ce matin. Le leader de Calédonie Ensemble a été entendu dans le cadre du procès des emplois fictifs à la province sud. En métropole, exercice médiatique pour Emmanuel Macron sur TF1. Ukraine, simplification, relance de l'industrie, utilisation du référendum. Il a balayé les grands sujets du moment. Gérard Depardieu fait appel de sa condamnation. L'acteur a écopé de 18 mois de prison avec sursis pour 2 agressions sexuelles sur un tournage. Et puis le sport, une délégation réduite de sportifs calédoniens au mini-jeu de Palao. Le CTOS s'est expliqué ce matin sur ses choix et ses contraintes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le nouveau haut-commissaire Jacques Billan était dans les studios de Radio Rythme Bleu ce matin. Une dizaine de jours seulement après sa prise de fonction, il s'exprimait pour la première fois publiquement sur sa mission, mais aussi sur ses priorités, Elisabeth Noir.
Le haut-commissaire Jacques Billan est arrivé le 2 mai en Nouvelle-Calédonie en pleine visite ministérielle et alors que se déroulaient les discussions sur l'avenir institutionnel. Dès son arrivée, il s'était rendu à Boulou-Paris pour la fête du cerf et de la crevette, puis à Marais pour la fête de l'avocat et il a accompagné Manuel Valls notamment pour le conclave de Deva. C'est donc la première fois qu'il s'exprimait publiquement sur ses fonctions et il déclare tout d'abord que l'État sera aux côtés des Calédoniens.
Les Calédoniens parlent avec le cœur, parlent avec passion, parlent avec franchise. Et ce qui m'a été dit, c'est que beaucoup étaient inquiets. C'est ce que j'ai pu entendre depuis mon arrivée. Et ça, c'est la plus importante des réalités que je dois prendre en compte actuellement. Ces inquiétudes sont nombreuses. Elles concernent la sécurité, elles concernent l'emploi, elles concernent aussi la santé. Et elles sont légitimement justifiées après les événements qu'a connus le territoire en 2020. 2024. Alors, moi, je veux ce matin dire aux Calédoniens que l'État sera bien sûr encore et toujours à leur côté et je m'engage personnellement dans les attributions qui sont les miennes et avec l'ensemble des services placés sous ma responsabilité à y être le plus réactif et le plus attentif possible.
Vous le savez, dans la perspective du 13 mai, un dispositif de sécurité a été mis en place pour répondre aux inquiétudes et à une certaine fébrilité sur le terrain. Au lendemain de la date du début des violences insurrectionnelles il y a un an, le haut-commissaire affirme que tout est sous contrôle.
À l'heure où je vous parle, la situation sur le plan de la sécurité est sous contrôle. Hier, date anniversaire du début des émeutes de 2024, le 13 mai, nous avons eu à gérer un certain nombre de rassemblements, très exactement 28 rassemblements sur l'ensemble du territoire qui ont mobilisé près de 1000 personnes. Et tous ces rassemblements se sont déroulés dans le calme. Ils ont été encadrés par les forces de sécurité que j'avais mobilisées sur le terrain pour que les choses se passent au mieux. J'avais communiqué sur les dispositifs préventifs que j'avais mis en œuvre dans les jours précédant la date anniversaire du 13 mai. 2 mesures, interdiction de manifester sur la voie publique sur le territoire du Grand Nouméa et également interdiction de la vente d'alcool à emporter. Des mesures préventives pour éviter toute provocation, pour éviter toute entrave, toute atteinte à la liberté de circulation. Les Calédoniens y sont particulièrement attachés et particulièrement attentifs.
Le commissaire Jacques Billan avait présenté sur le terrain le dispositif des forces de l'ordre mis en place, un dispositif qui sera encore prolongé de quelques jours.
J'ai pu rencontrer les forces de sécurité intérieure, les policiers, les gendarmes, les renforts qui nous ont rejoints au cours de ces dernières semaines et j'ai pu rappeler que ce sont actuellement près de 2600 membres des forces de l'ordre qui sont déployés sur le territoire pour prévenir les troubles à l'ordre public, pour prévenir les actes délictueux et bien évidemment pour rassurer tous les Calédoniens. Ce dispositif, je l'ai souhaité visible, mes consignes ont été claires, être là où il faut, quand il le faut, et interpeller le plus rapidement possible les auteurs des faits délictueux ou les auteurs de troubles à l'ordre public. Ce dispositif va perdurer dans les jours qui viennent.
Et si nécessaire, le haut-commissaire pourra bénéficier de renforts de forces de l'ordre. Cela lui a été confirmé par le ministre des Outre-mer et par le ministre de l'Intérieur. Mais il estime que les forces actuelles sont tout à fait opérationnelles. Parmi ses priorités, la lutte contre la consommation d'alcool en Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissariat travaille, dit-il, sur une charte des bars responsables à Nouméa, avec la mairie de Nouméa et avec la province sud. Mais dans ses priorités, il y a d'abord l'ordre public, mais aussi la reconstruction.
Les Calédoniens attendent du haut-commissaire qu'ils garantissent leur sécurité, qu'ils garantissent l'ordre public En tout cas, c'est l'expression forte que j'ai entendue de la part de mes premiers interlocuteurs lors de mon installation et lors de mes premières rencontres. Donc, vous avez raison de dire que c'est ma priorité depuis mon arrivée. Mais il faut aussi penser à la reconstruction, penser à la situation économique qui est actuellement dégradée. J'entends bien évidemment porter une attention particulière et mettre tout mon énergie pour accompagner le monde économique. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais vous savez que l'État a mis beaucoup de moyens pour soutenir les entreprises qui ont traversé des difficultés depuis mai 2024. C'est tout le plan autour de la reconstruction du territoire.
Son emploi du temps des tout premiers jours lui avait permis dès le début de rencontrer beaucoup de gens et d'aller sur le terrain. Dans la continuité, Jacques Billon va poursuivre ses rencontres institutionnelles avec tous les élus. L'objectif étant, dit-il, d'établir des relations de travail et de confiance le plus rapidement possible. Quant aux prochaines échéances institutionnelles, après l'échec de la recherche d'un accord, ce sont les élections provinciales et le comité de suivi.
Le ministre d'État, ministre des Outre-mer, l'a annoncé lors de sa conférence de presse du 8 mai. Le gouvernement va prochainement étudier les modalités de convocation des électeurs pour les élections provinciales. Ces élections seront bien sûr une priorité pour le haut-commissaire que je suis. Il est important qu'elles soient organisées dans les temps. Il y a donc un travail de préparation à faire avec l'ensemble des équipes du haut-commissariat et qu'elles se tiennent dans les meilleures conditions de sécurité pour assurer la sérénité de cet exercice démocratique. Le ministre d'État, ministre des Outre-mer, a aussi évoqué la poursuite des discussions avec celles et ceux qui le souhaitaient au sein de ce qu'il a appelé un comité de suivi. Et bien sûr, dans ce cadre, nous resterons à la disposition du ministre d'État. Le ministre a annoncé clairement qu'il entendait mettre en place ce comité de suivi. On travaille actuellement avec son cabinet sur les modalités, sur l'engagement qui sera celui du haut-commissaire et de ses équipes.
Voilà pour ces déclarations. Le haut-commissaire Jacques Billon connaît bien son prédécesseur Louis Lefranc, puisqu'ils ont été élèves ensemble à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr il y a 44 ans. Ils se sont croisés à Tantouta quand l'un partait et l'autre venait prendre ses fonctions. Jacques Billon qui salue l'engagement, le courage et le professionnalisme dont a fait part Louis Lefranc.
Et cette interview du nouveau commissaire Jacques Billon est évidemment retrouvée en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Vous l'avez entendu, la situation est restée sous contrôle en ce lendemain du 13 mai. Malgré une légère hausse de l'activité la nuit dernière, dans le Grand Nouméa, une vingtaine de faits ont été constatés avec des jets de projectiles contre des policiers et gendarmes, mais aussi des tentatives d'entrave à la circulation à l'aide de branchages ou de feux de poubelle. L'activité s'est ensuite calmée après minuit. On notera toutefois hier des caillassages à l'encontre des bus Tanéo, Léana Colombo.
Au total, 7 caillassages ont été recensés dans différents secteurs, 4 à Saint-Louis, 1 à Caméré, 1 au niveau de l'échangeur de Kenouine et 1 sur la VDE au niveau de la salle Omnisport. Plusieurs véhicules ont été fortement endommagés sans faire de blessés parmi les conducteurs ni les passagers. Des caillassages qui ont eu des conséquences par contre sur le service des transports en commun. Dans un premier temps, le SMTU a annoncé que les bus circuleraient à partir de 6h30 ce matin et non 5h comme à l'accoutumée. Puis les chauffeurs ayant décidé d'exercer leur droit de retrait n'ont pas permis la reprise du service. Et c'est finalement à 11h que les bus ont de nouveau circulé dans le Grand Nouméa. Les explications d'Hugues Georgelin, directeur adjoint du SMTU.
On avait prévu dès hier, en fait, pour des mesures de prudence compte tenu de ces 7 caillassages, puisque je rappelle que nous n'en avions eu que 2 depuis le 10 février, redémarrage du réseau, donc on va dire un réseau plutôt calme en termes d'incivilité. Là, 7 d'un coup en une nuit, on s'est mis dans une logique prudentielle avec un démarrage à 6h30 à la levée du jour, pour éviter la nuit, bien évidemment. Au démarrage donc de ces services, l'ensemble du personnel de conduite mobilisé a souhaité effectuer un débrayage en réaction à ces caillassages qui a empêché la tenue des services aujourd'hui jusqu'à 11h, puisque les services ont repris pour 11h.
Pour éviter de nouveaux incidents, la direction a donc pris la décision de modifier temporairement ses horaires et certains de ses trajets, explique Hugues Georgelin.
Recentrons l'ensemble des vacations du matin et de l'après-midi sur la période diurne, c'est-à-dire du jour. Donc pour être très précis, ce sera démarrage à 6h30 du matin jusqu'à 10h30. Et pour l'après-midi, on commencera à 14h et tout finira à 18h, contrairement à 19h aujourd'hui. Ces mesures sont prévues jusqu'à samedi, 17 inclus. Et à partir de lundi, nous reprenons nos horaires normaux. Concernant la ligne 8 spécifiquement, l'arrêt se fera au lycée du Mont-d'Or pendant cette période, donc jusqu'à samedi 17, pour les raisons évidentes de sécurité, puisque La majeure partie des caillassages ont eu lieu sur la traversée de Saint-Louis, malgré la présence des forces de l'ordre.
En plus de condamner ces incivilités, le SMTU rappelle que ces faits de violence pénalisent la population et fragilisent la pérennité du réseau Tanéo. Et
toujours au chapitre des faits divers, les trois fugitifs de la prison de Koné sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Dans la nuit de lundi à mardi, 5 individus s'étaient échappés en escaladant le mur d'enceinte. Au moins l'un d'eux s'est blessé lors de cette opération. Grâce aux moyens déjà déployés, deux fugitifs ont été retrouvés. Les recherches se poursuivent pour les trois autres et la gendarmerie appelle la population à composer le 17 pour toute information utile.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici d'abord la réponse à la question d'hier. Et sans surprise, tous les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'un an après le début des violences insurrectionnelles, ils sont impactés par leurs conséquences dans leur quotidien. Et voici notre question du jour. Suivez-vous avec intérêt le procès des emplois fictifs? Si c'est le cas, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. À propos de ce procès, c'est Philippe Gomez qui était entendu à la barre ce matin. Compte rendu d'audience dans un instant avec Nicolas Legrand que l'on retrouvera après la pause en direct du Palais de Justice.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Dimanche 25 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale fête des mères sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Et venons-en donc au troisième jour du procès de 5 cadres de Calédonie Ensemble qui comparaissent pour des soupçons d'emploi fictifs. Ce matin, c'est le leader du parti, Philippe Gomez, qui était appelé à la barre. Audience suivie par Nicolas Legrand, que l'on retrouve en direct du Palais de Justice.
Oui, je conteste les faits de la manière la plus ferme possible. C'est ce que Philippe Gomez a déclaré ce matin alors que le tribunal a requalifié les faits reprochés en complicité de détournement de fonds publics pour 24 contrats de collaborateurs. Philippe Gomez, qui reste toutefois poursuivi pour détournement de fonds publics pour 3 contrats. Il s'agit de ses 3 plus proches collaborateurs directement liés à ses mandats. Le débat a porté ce matin sur la dénomination des intitulés de ces postes de collaborateurs de cabinet. Ils pouvaient être assistants, secrétaires de direction ou autres, par exemple. La présidente s'étonne en s'adressant à Philippe Gomez. Expliquez-nous maintenant pourquoi les intitulés des postes des collaborateurs changeaient d'un contrat à l'autre alors que les missions étaient globalement les mêmes selon vous. Philippe Gomez affirme alors que la dénomination du poste ne correspond jamais au travail effectué concernant les collaborateurs. Il s'agissait simplement d'une indication pour faire correspondre un niveau de rémunération en fonction de la grille indiciaire. Il compare d'ailleurs aux fonctions d'attaché parlementaire pour lesquelles à l'Assemblée nationale, aucun intitulé n'est imposé. Philippe Gomez affirme donc à plusieurs reprises que le texte fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet dans les institutions calédoniennes, la délibération 100 CP de 1996, aurait dû être révisé depuis longtemps pour éviter ce type de débat judiciaire. Lundi, par ailleurs, le procureur de la République, Yves Dupin, avait estimé que l'emploi systématique de collaborateurs wallisiens et futuniens sur des postes à temps partiel était de nature à éveiller les soupçons. Là aussi, Philippe Gomez s'est justifié. Il affirme que les crédits collaborateurs peuvent être fractionnés dans une limite de poste équivalent à 10% d'un temps plein, et ce, à la discrétion du groupe politique. Philippe Gomez justifie donc ce saucissonnage de poste par l'âge avancé des collaborateurs de terrain wallisiens et futuniens, mais aussi par leur emploi du temps de coutumier. Pour se défendre, Philippe Gomez a aussi émis des doutes sur les témoignages de plusieurs de ses collaborateurs. Ils avaient notamment déclaré lors d'audition qu'ils étaient embauchés uniquement pour faire élire Calédonie Ensemble aux prochaines élections et non pour informer les populations des politiques publiques mises en place par les institutions. Pour Philippe Gomez, ces témoignages sont contestables car les collaborateurs ne parlaient pas tous français et que leurs propos ont été traduits par des proches et non pas par des traducteurs professionnels. Les débats ont été suspendus à l'instant pour permettre la tenue d'une cérémonie à l'entrée du Palais de Justice. Une minute de silence est observée pour commémorer la mémoire de 2 agents pénitentiaires tués en métropole le 14 mai 2024 lors de l'évasion de Mohamed Amra. L'occasion également de se recueillir un an après les violences de mai 2024 qui ont touché la Nouvelle-Calédonie. Au tribunal de Nouméa, Nicolas Legrand, RRB.
Justice toujours, mais cette fois-ci aux assises de Nouméa, où la première affaire de la session devait être jugée jusqu'à ce soir, mais elle a finalement été renvoyée à la prochaine session prévue début septembre. Les jurés devaient se pencher sur un cas de viol en réunion, Léana.
En 2009, une femme et son compagnon participent à un anniversaire où coule à flot alcool et drogue. La victime, âgée de 32 ans à l'époque, a un premier rapport sexuel avec un des auteurs de l'agression, aujourd'hui décédé. Il dira lors de son audition que ce rapport était consenti. Puis, c'est le lendemain que la victime subit un viol en réunion. Ce n'est que 7 ans après les faits, soit en 2016, que la femme porte plainte contre ses agresseurs. Initialement, 6 individus avaient été mis en examen, mais seuls 2 accusés étaient jugés hier en raison de la prescription de ces délits pour les uns et du décès d'un autre. Durant l'audience, la victime, présente en tant que témoin, a finalement annoncé à la présidente vouloir se constituer partie civile. Un cas rare, mais une décision qui n'étonne pas Lio Colleux, permanente en chef de l'association SOS Violence.
Ce contexte de dossier-là, c'est très rare. C'est très rare surtout qu'elle arrive à être retrouvée, à être touchée et être présente à l'audience. Mais ne s'étant pas constituée partie civile pendant l'instruction, elle a pu être retrouvée par un huissier de justice et être présente. Mais c'est des dossiers qui sont très rares, ce contexte-là. Par contre, le fait que des victimes prennent conscience le jour de l'audience, de la volonté qu'elles ont, de la reconnaissance de leur statut de victime, se constitue souvent au dernier moment.
La requête a donc été acceptée et l'affaire sera jugée en septembre. Dans un même temps, la présidente de la Cour a annoncé le maintien en détention des accusés.
L'actualité religieuse avec une messe d'action de grâce célébrée hier soir à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa pour l'élection du pape Léon XIV. Messe présidée par l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Sione Poé. Et pendant la célébration, il a insisté sur les premiers mots prononcés par le nouveau Saint-Père, la paix et jamais plus la guerre.
Les premiers mots que le pape a prononcés, c'est les premiers mots du Christ ressuscité. C'est la paix qu'il souhaitait transmettre chacun et chacune, à chaque famille. C'est le message que je veux transmettre à notre pays, la Nouvelle-Calédonie. C'est toujours à travers le Christ qui est notre, à travers l'écoute de la parole de Dieu, de ses commandements, lui qui est notre bon pasteur. Et aussi le message de notre pape Léon, ça résonne aussi, tout particulièrement pour ici en Nouvelle-Calédonie, que jamais plus la guerre. Et ça veut dire que nous sommes invités à appeler être une église missionnaire, à être une église synodale, c'est-à-dire une église qui construit des ponts, une église qui œuvre pour le dialogue, une église qui est toujours accueillante pour les uns les autres.
Et de nombreux fidèles ont tenu à assister à cette messe d'action de grâce.
C'est par rapport aux mots que le pape il a prononcé pour la paix. Partout dans le monde, en Calédonie et dans le monde entier.
C'est pour venir être avec toute la communauté, la chrétienté, pour soutenir le pape, le nouveau pape.
Saint-Père le pape Léon XIV, voilà, c'était une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur. On a un pasteur, le vicaire du Christ.
Un message particulier que vous avez retenu?
C'est la paix, la paix. Mais d'abord, la paix vient de nous et après tout autour de nous.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. La célébration était concélébrée par Mgr Calvé, archevêque émérite du diocèse, et par le vicaire général, le père Roch Apikawa. Toujours au chapitre religieux, la deuxième édition du sommet des jeunes leaders aura lieu ce week-end à l'église évangélique de Pentecôte de Normandie. Après le succès de la première édition qui avait rassemblé plus de 1000 jeunes de 13 à 25 ans lors d'une seule journée, ce sont cette fois-ci 3 jours de rencontres, d'échanges, d'animations et d'ateliers qui sont prévus. Un an après les émeutes, les organisateurs espèrent que les jeunes sortiront de ce week-end avec une volonté d'aller de l'avant et de reconstruire ensemble un avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Yvette Révol est chef de projet de cette rencontre.
C'est pourquoi on a voulu justement organiser cet événement. C'était aussi par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Et c'est un temps aussi où notre jeunesse va pouvoir s'exprimer, va pouvoir exprimer justement face à son mal-être. C'est vraiment une tranche d'âge où elle est en quête identitaire. Et nous aussi, on voulait montrer aussi qu'il y a une autre jeunesse aussi, cette jeunesse chrétienne qui, elle, a expérimenté justement un message d'espoir et de parler aussi aux autres jeunes, de leur dire, c'est vrai, il y a eu des temps de crise, c'est vrai, c'est pas toujours facile la vie, mais il y a aussi un autre chemin que vous pouvez prendre aussi. Et ce chemin-là, nous, on l'a expérimenté et ce chemin-là, nous voulons aussi vous le partager.
Et cette deuxième édition du sommet des jeunes leaders débute donc vendredi soir à 18h et elle se poursuit jusqu'à dimanche, 18h également. Elle a lieu à l'église évangélique de Pentecôte de Normandie. En bref, une double sortie sur le terrain pour les jeunes du conseil municipal junior de Nouméa. Ce matin, ils se sont rendus à la base navale où ils ont pu visiter la frégate de surveillance Le Vendémiaire. Cet après-midi, ils partiront à la découverte de la mangrove avec une découverte de l'écosystème de Wemo. Et puis la province sud organise vendredi soir à 16h à l'UNC une réunion d'information pour les étudiants qui vont poursuivre leurs études en métropole et pour leurs familles. Réunion en présence de Sonia Baquès, la présidente de la province sud, au cours de laquelle seront présentés les dispositifs d'aide aux billets d'avion, l'inscription à l'accueil groupé ou encore les démarches à effectuer avant le départ. Réunion ouverte aux élèves boursiers ou non boursiers. 11h51, une nouvelle pause dans ce journal, dans un instant l'actualité en métropole et notamment l'émission télévisée de 3h avec Emmanuel Macron. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Il commence à faire frais. J'aurais bien besoin de nouveaux vêtements chauds. Ne tardez pas. Jusqu'au 25 mai, direction Gémeaux pour y découvrir la nouvelle collection hiver qui réchauffera toute la famille à petit prix. Sans oublier les idées cadeaux pour la fête des mères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. En retour, Jean-François Baudin.
Avec le retour médiatique d'Emmanuel Macron, le chef de l'État a participé ce matin pour nous à une grande émission de près de 3 heures sur TF1. Il a répondu aux questions des journalistes, du public, d'influenceurs. Il a échangé avec plusieurs personnalités, notamment Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, ou encore Robert Ménard, le maire de Béziers. De très nombreux sujets ont été abordés. Jacques Serret pour Europe 1.
Le président qui, au début de son intervention, est donc revenu sur la situation en Ukraine et il a fait des annonces, notamment sur le fait que les Européens prendront des sanctions dans les prochains jours si la Russie n'applique pas le cessez-le-feu. Des annonces de sanctions, mais un blocage en ce qui concerne le fait de prendre les capitaux russes qui sont dans les banques européennes.
Aujourd'hui, nous n'avons pas le cadre légal pour le faire. Ce capital, il donne des intérêts tous les mois. Ces intérêts, on les a utilisés déjà, on les gage pour pouvoir financer notre aide à l'Ukraine. Mais à l'heure où je vous parle, ça n'est pas une bonne solution. Ces avoirs, je l'ai. Au moment du règlement du conflit, je pense qu'il faut les utiliser pour aider à reconstruire.
Autre point géopolitique très important abordé ce soir par le chef de l'État, le fait que la France soit prête à une discussion sur le déploiement d'avions armés de bombes nucléaires dans d'autres pays européens.
Les Américains aujourd'hui ont des bombes, en effet, sur des avions en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Turquie. Nous sommes prêts à ouvrir cette discussion. J'en définirai le cadre de manière très officielle dans les semaines et les mois qui viennent, mais on a déjà engagé les choses avec ces réserves que j'évoquais.
Le chef de l'État qui a échangé également avec la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, face à elle, il a refusé une nationalisation d'ArcelorMittal. Il a également annoncé le fait qu'il souhaite une conférence sociale sur le mode de financement de notre modèle social. Enfin, il a répondu à cette question très attendue. Oui ou non est-il favorable à un référendum sur les retraites ?
La réponse est non. Moi, cette réforme, on l'a pas faite de gaieté de cœur. On l'a faite pour sauver le système par répartition, auquel je crois. Et donc, si on ne le réformait pas, on accumulait des déficits. Si on abroge cette réforme, chaque année, on a une dizaine de milliards d'euros qu'il faut retrouver. Si on revient à ce que vous proposez, c'est 28 milliards d'euros par an.
Et lors de cette émission, Emmanuel Macron a également annoncé qu'il n'était pas question d'organiser un référendum sur l'immigration. Ce serait impossible constitutionnellement, a-t-il dit. Il est aussi opposé au port des signes religieux dans les compétitions sportives, mais il renvoie au règlement de chaque fédération concernant le port du voile lors des entraînements. Enfin, le chef de l'État s'est dit favorable à la participation des détenus à leurs frais de détention. Une page justice avec d'abord la condamnation de Gérard Depardieu à 18 mois de prison avec sursis. L'acteur a été reconnu coupable de 2 agressions sexuelles sur un tournage, une peine qui satisfait les parties civiles. Maître Karine Durieux est l'avocate de l'une des 2 victimes.
C'est une belle décision, c'est une reconnaissance pour les victimes aujourd'hui, pour les victimes de Depardieu. C'est la victoire de 2 femmes sur un tournage, mais c'est la victoire de toutes les femmes derrière ce procès. J'ai une pensée également pour les autres victimes de Gérard Depardieu qui sont déclarées, qui sont prescrites.
En revanche, la défense de Gérard Depardieu estime que le tribunal a rendu sa décision sans preuve concrète. Écoutez l'un de ses avocats, maître Jérémy Assous.
Pour la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, accusation vaut condamnation. À partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire dite d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné. Et peu importe si on relève de multiples contradictions, des mensonges, voire des incohérences et des incompatibilités physiques.
Et après cette décision de justice, Gérard Depardieu a annoncé qu'il faisait appel. Autre procès, celui des cambrioleurs de l'appartement parisien de Kim Kardashian il y a 9 ans. Ils étaient repartis avec 9 millions d'euros de bijoux et la célèbre influenceuse avait été violentée. Ce qu'elle a raconté à la barre, le compte-rendu d'audience avec Alexis de la Fléchère.
Kim Kardashian s'est présentée à la barre, tout de noir, vêtue, jupe longue, chignon serré, collier blanc qui scintille autour du cou. Et face au juge, elle est revenue très longuement sur les faits. Elle a raconté, parfois en larmes, il faut le dire, minute par minute, cette soirée d'horreur. Le moment, par exemple, où elle a été traînée au sol, arme de poing sur la tempe, alors qu'elle était à moitié nue. Elle a redit au juge, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru qu'ils allaient me violer et me tuer. Une agression qui a eu des conséquences psychologiques sur elle. Kim Kardashian a expliqué avoir basculé ensuite dans une sorte de paranoïa très difficile à vivre. Puis Maëlle est venu le temps des excuses des accusés. Une lettre de l'un d'eux a été lue. 2 autres ont pris la parole pour exprimer des regrets, dont Younis Abbas, 72 ans. Un moment très fort, selon son avocat.
Le moment de vérité où les accusés ont pu présenter leurs excuses était un moment, je pense, très attendu. Et ce qu'a dit Mme Kardashian à la fin de son audition sur nos questions, c'était que ça ne répare pas tout, mais ça permet quand même d'avancer. Et ça rapporte un peu de paix également.
Alors on verra si les juges ont été sensibles à tout cela. Le verdict est prévu dans 10 jours maintenant, le 23 mai prochain.
Et toujours en métropole, une tentative d'enlèvement en pleine rue à Paris. C'est la fille et le petit-fils du PDG d'une grande société de crypto-monnaie qui étaient visés. Le compagnon de la fille de ce PDG a tenté de s'interposer face aux hommes cagoulés qui l'ont roué de coups. Il a fallu l'intervention de passants pour mettre en déroute les malfaiteurs. Une commission d'enquête parlementaire sur les liens entre les réseaux islamistes et certaines formations politiques. C'est ce que demande le groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, présidée par Laurent Wauquiez, qui vise clairement la France insoumise, Alexis de La Fontaine.
Selon Laurent Wauquiez, depuis les attentats commis par le Hamas le 7 octobre, la France insoumise soutient médiatiquement le groupe classé comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Mais Laurent Wauquiez souhaite également enquêter sur les liens entre les Frères musulmans et la France insoumise, notamment en vue des municipales de 2026. Il craint un potentiel clientélisme électoral, avec par exemple la question des terrains attribués par les mairies pour construire des mosquées ou des subventions à des associations islamistes. À la France insoumise, le député Éric Coquerel balaye les accusations.
C'est la même méthode que Trump qui calomnie tous ses adversaires, tous ses opposants. Voilà, malheureusement, il y a des gens qui se disent encore les héritiers du général de Gaulle, mais qui sont plutôt les imitateurs de Trump en France. Donc c'est un peu regrettable.
La commission des lois doit maintenant valider ou non l'ouverture de cette enquête dans les prochaines semaines.
Alexis de la Fléchère pour Europe 1. Dans l'actualité à l'étranger, en bref, le début de la visite de Donald Trump au Moyen-Orient. Première étape, l'Arabie Saoudite, où le président américain a été accueilli par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Ils ont signé un contrat de vente d'armes très important. Riyad va également investir 600 millions de dollars aux États-Unis. À cette occasion, Donald Trump a également annoncé la levée des sanctions économiques contre la Syrie. Il est 11h59, c'est donc l'heure d'une nouvelle pause dans ce journal avant de retrouver dans un instant toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pure Essentiel, l'expert des huiles essentielles, s'engage dès aujourd'hui à vous offrir le meilleur du bio au meilleur prix pour votre santé et votre bien-être. En direct de nos producteurs locaux, les huiles essentielles Pure Essentiel sont certifiées 100% bio, pures et naturelles. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, et d'abord l'actualité sportive en Calédonie pour parler des mini-jeux du Pacifique qui approchent puisque l'édition 2025 se déroulera à Palau à partir de la fin du mois de juin. La Nouvelle-Calédonie sera bien présente, même si c'est une délégation fortement réduite qui partira sur place, a confirmé ce matin le CTOS, Michael Juneski.
La raison principale, évidemment, c'est le budget fortement contraint. Le comité territorial olympique et sportif a dû revoir à la baisse le nombre d'engagés pour porter les couleurs de la Nouvelle-Calédonie. En tout, 31 sportifs seront de la partie ainsi que 11 encadrants. Marion Roumagne est chef de mission pour ces mini-jeux du Pacifique.
En termes d'organisation, ça a été très compliqué. Déjà, remettre tout le monde en ordre de marche après les événements, ça a été très difficile. Grosse contrainte de ce côté-là, récupérer un peu toutes les disciplines pour les remettre en ordre de marche, les refaire reprendre les entraînements et puis tout. Et derrière, toutes les incertitudes qui ont été sur le budget, ne pas savoir pendant X temps à combien on allait faire partir la délégation, comment ça allait se passer, puis tout, charter, pas charter, vol régulier. Ça a été des questions qu'on s'est posées jusqu'au moment où le gouvernement nous a dit qu'il nous donnait 45% du budget pour partir. Donc 31 là au final pour les athlètes et 11 dirigeants qui partent derrière pour piloter cette équipe de Calédoniens, de Kagou en tous les cas, qui vont faire du mieux qu'ils peuvent.
Pour le CTOS, l'objectif est avant tout de donner une solide expérience à de jeunes athlètes dans la perspective des Jeux de Tahiti en 2027. 48% des sélectionnés sont âgés de 14 à 17 ans. La moyenne d'âge de la délégation est de 22 ans. On retrouvera des Calédoniens en athlétisme et athlétisme en e-sport, en natation, en tennis de table, en volley indoor messieurs et beach volley féminin, en triathlon et en haltérophilie. Michel Quintin, le directeur du comité territorial olympique et sportif.
Le mot d'ordre, c'est de préparer Tahiti 2027. Même si on va à Palau, on va pas pour l'objectif de gagner les mini-jeux, pas du tout, et ni de faire un maximum de médailles. Là, c'est vraiment préparer nos jeunes, notamment pour les Jeux de Tahiti 2027, qui reste l'objectif principal. Tout le monde connaît le contexte, tout le monde s'attendait à ce que justement, ça soit un déplacement compliqué. Tout le monde a été compréhensif, et c'est vrai qu'on a travaillé surtout dans l'intérêt de la préparation de Tahiti 2027, en voyant quel est l'intérêt pour chaque discipline d'aller faire ce déplacement, ou s'il n'y avait pas, au contraire, des déplacements qui pourraient être plus intéressants dans le cadre de la préparation. Donc voilà, on a trouvé un juste milieu avec l'ensemble des disciplines et tout le monde a été très coopératif et compréhensif. Là, on sera dans les petites délégations, donc quand on va avoir à la cérémonie d'ouverture seulement une vingtaine d'athlètes qui vont défiler, c'est vrai que ça va faire bizarre pour beaucoup de pays de se rendre compte que la Calédonie, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Là, il y a quand même 12 disciplines au programme. Voilà, il y a des choix qui ont dû être faits en fonction de l'intérêt.
Les premiers athlètes partiront le 27 juin. La cérémonie d'ouverture des mini-jeux à Palau est prévue le dimanche 29 juin.
Le sport sur le territoire, toujours, on va parler BMX. Les portes ouvertes de la piste de BMX Race à Tina auront lieu samedi de 8h à 16h, Léo Fichou.
Une journée de découverte de cette discipline en plein essor depuis le triplé français, c'était aux Jeux Olympiques de Paris. Malgré l'incendie volontaire des Algeco au début du mois, le comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie accueillera les visiteurs curieux, passionnés, riders confirmés ou encore sportifs en herbe. Stéphane Coulon, président du comité régional.
Tous les publics dès l'âge de 6 ans pour des sessions gratuites d'initiation au travers d'ateliers, de tours de piste. En fait, nous disposons d'une trentaine de vélos, de casques, de protection qui seront mis à disposition pour les gens qui souhaitent s'initier et qui n'ont pas le matériel en leur possession. Nous savons et nous voyons régulièrement que les pistes de pump track sont très fréquentées. Donc nous supposons que les gens qui fréquentent ces pistes de pump track ont tout intérêt à venir fréquenter la piste de BMX Race. La piste est vraiment géniale, d'un niveau excellent. Et puis le BMX a un côté fun indéniable qui attire fortement les jeunes de 6 à 20 ans. Quoi.
Rendez-vous donc ce samedi de 8h à 16h sur la toute nouvelle piste de BMX de Tina pour s'essayer à cette discipline. Les renseignements sont à retrouver sur la page Facebook du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie.
Le sport sur la scène nationale et internationale maintenant avec du cyclisme et la suite du Giro. Lionel Sabot, on courait cette nuit la quatrième étape longue de 189 km entre Albero Bello et Lecce.
Le néerlandais Casper Van Hooijdonk a créé la surprise en remportant au sprint cette quatrième étape. Le coureur de l'équipe Picnic, coéquipier du français Romain Bardet, Bardet s'est imposé devant ses compatriotes Olav Koijer et Michael Sigelaard pour décrocher sa première victoire dans un grand tour. Le jeune français Paul Magnier, qui s'est fait un peu enfermer dans le final, a terminé 8e du sprint massif du premier grand tour qu'il dispute. La victoire de Van Uden, la 5e de sa carrière, est loin d'être la plus belle, est une grosse surprise. Même si le néerlandais de 23 ans est réputé pour être rapide, il n'est pas du tout favori face à des sprinteurs confirmés. Son succès arraché sans discussion possible avec un demi-vélo d'avance offre aussi un grand bol d'air à son équipe Picnic, qui est toujours sous pression après un début de saison mitigé. La formation néerlandaise, qui était sereine en début d'année, est désormais même sous la menace d'une relégation en deuxième division à la fin de la saison, à cause notamment de la remontée fulgurante de l'équipe Astana, qui multiplie les victoires en 2025. Le Danois Mads Pedersen, 4e de l'étape, conserve le maillot rose de leader avec 7 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic.
Et puis un mot de tennis avec la suite du Masters 1000 de Rome.
Oui, et presque sans surprise, il n'y a plus de Français engagés dans ce tournoi. Nos deux derniers représentants ont été éliminés la nuit dernière. Corentin Moutet a bien résisté, mais il a finalement été éliminé par le Britannique Jack Draper, tête de série numéro 5. Le Français a remporté la première manche 6-1, mais il a craqué dans les deux sets suivants pour finalement s'incliner 1-6, 6-4, 6-3. Quant à Arthur Fils, tête de série numéro 13, il a été logiquement battu en 2-7 par l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 2. Arthur Fils s'incline finalement 7-6, 6-1.
Midi 6, c'est la fin de ce journal. Mes infomags se poursuivent jusqu'à 13h avec Thierry. Je vous souhaite une belle après-midi.